Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Foi et Turbulence. Mon nom est Francine Robert, je suis professeur à l'Institut de Pastoral des Dominicains. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui une entrevue avec Monsieur Jean-Claude Guillebeault, qui est un écrivain, un journaliste français. Il était de passage à Montréal dernièrement. C'est possible que vous connaissiez déjà Jean-Claude Guillebeault, soit parce que vous avez lu un de ses nombreux livres d'analyse de la société actuelle, ou encore parce que vous l'avez entendu en conférence, il vient souvent à Montréal. Nous lui avons demandé de nous parler de son tout dernier livre. Le titre en est « Une autre vie possible » avec en sous-titre « Comment retrouver l'espérance ». Contrairement à la plupart de ses publications précédentes, qui étaient des ouvrages très élaborés, ce petit livre de 200 pages, très accessible, vise à nous proposer l'espérance comme étant finalement le seul choix vraiment pertinent face aux défis sociaux dans lesquels nous devons nous orienter, avec lesquels nous devons composer. Et vous constaterez avec moi que Jean-Claude Guillebeault est particulièrement éloquent et convaincant quand il s'agit de nous parler de ce choix pour l'espérance. J'ai demandé à mon collègue Bruno Demers, qui est professeur de théologie fondamentale à l'Institut, d'animer cette entrevue pour nous, parce qu'il connaît bien Jean-Claude Guillebeault et il a lu tous ses ouvrages, dont ce tout dernier, « Une autre vie est possible, comment retrouver l'espérance ». Et d'avance, je les remercie tous les deux d'avoir bien voulu réaliser cette entrevue pour nous.
Bonjour Jean-Claude Guillebeault.
Bonjour.
On est très content de vous accueillir à cette émission et lors de votre visite ici à Montréal. Vous qui êtes un essayiste, vous qui nous avez habitués à des gros pavés, entre autres 8 gros volumes dans les 15 dernières années, tout à coup, vous nous arrivez avec un petit livre, cette fois-ci, qui s'appelle « Une autre vie est possible ». Dites-nous donc, Jean-Claude Guillebeault, comment ça se fait? D'où vous est venue l'idée de produire tout à coup un petit livre à rabais comme ça? Non.
Je vais vous dire la vérité, c'est pas un petit livre à rabais, j'espère que non, mais c'est, disons que c'est un petit livre plus personnel que les autres. C'est-à-dire que c'est pas un livre de sciences humaines où je cite des grands textes, des grands auteurs, etc. C'est un petit livre plus personnel où je m'engage en disant je assez souvent. Et pour vous dire la vérité, c'est une idée de ma femme, Catherine Guillebeault, qui est elle-même romancière, qui publie des livres. Et voilà un peu plus d'un an, nous revenions tous les deux ensemble d'un voyage assez passionnant en Asie. Nous avions été au Vietnam, un pays que je connais bien, et au Cambodge. Et nous avions été bouleversés par, comment vous expliquer, la détermination, le courage, l'espérance qui habitait ces peuples qui avaient été assez récemment, comme vous le savez, des peuples martyrs. Que ce soit des Vietnamiens qui ont connu 30 ans d'une guerre épouvantable qui a fait plusieurs millions de morts dans la population civile, ou bien les Cambodgiens qui, comme vous le savez, avec les Khmers rouges, ont vu disparaître le tiers de leur population et qui aujourd'hui font face à un régime, je veux pas être méchant, mais disons qui est assez largement gouverné par des affairistes, par l'argent. Ils affrontent aujourd'hui une brutalité qui vient des gens qui veulent faire des affaires et qui sont capables d'appeler la police pour évacuer un terrain, pour construire dessus, de faire des opérations immobilières. Donc ils sont encore dans la... Et nous avons été bouleversés avec ma femme de trouver tous ces gens-là, malgré tout, animés par une détermination, un courage formidable. Comme je l'ai d'ailleurs souvent constaté quand j'étais grand reporter et que je m'occupais des guerres, je trouvais dans le lointain des peuples qui étaient plongés dans des graves difficultés, quelquefois terribles, des guerres, des révolutions, et qui me paraissaient chaque fois moins pessimistes que mes compatriotes que je retrouvais quand je rentrais en France. Alors, cette fois, avec ma femme, nous étions dans l'avion du retour, et Catherine, assise à côté de moi, m'a dit « Tu vois, Jean-Claude, vous savez, les femmes, ça mâche pas ces mots, ça va droit au fait, au but. » Elle me dit « Tu vois, Jean-Claude, au fond, on va retrouver la France sinistre, on va retrouver l'Europe pessimiste. » En plus, c'est la crise en Europe, c'était les élections présidentielles qui se déroulaient dans un climat assez détestable à bien des égards. Et ma femme me dit, au fond, ça fait un peu plus de 15 ans que tu fais des gros livres pour essayer d'expliquer les grandes mutations que nous vivons. Et ces livres, quand j'y repense, me dit-elle, qui ont été publiés beaucoup à l'étranger, la presse qui en a parlé a toujours été frappée par le fait que tous ces livres étaient marqués par l'optimisme. Que tu essayais de raconter des choses, mais ces livres ont un point commun, ils sont tous habités par l'optimisme. Mais me dit Catherine, cet optimisme, il était dilué dans ces gros bouquins de 400 pages, etc. Et là, tu devrais, parce que, me dit-elle, je crois que les Français en ont besoin, les lecteurs, tu devrais faire un petit livre très personnel, bille en tête, si j'ose dire, en expliquant aux gens pourquoi il y a toutes les raisons de ne pas désespérer. Et pourquoi le pessimisme, au fond, il fait partie du problème, il fait pas partie de la solution. Et cette fois, fais quelque chose de personnel, accessible à beaucoup de gens, sans l'alourdir d'un appareil de notes, de références savantes, etc. Et comme j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et que j'aime beaucoup ma femme, avec qui je suis marié depuis 30 ans, j'ai été très obéissant, et j'ai fait ce petit livre. Et je pense qu'elle a eu une bonne idée, parce que ce livre a eu en France un accueil formidable. Voilà. Voilà la vraie raison, sans tricher.
Ah ben bravo, en effet, c'est éclairant pour comprendre votre petit livre, qui est dans le fond vraiment une mise au point là, sur l'espérance, sur l'optimisme aujourd'hui. Maintenant, cet optimisme-là, je veux dire, vous l'avez quand même développé dans un contexte particulier. Vous avez fait allusion tout à l'heure à vos 20 ans comme reporter dans des situations difficiles. Alors, dites-moi, comment est-ce que quelque chose comme ça a pu naître dans ce contexte-là?
Je vais vous dire, comme je suis maintenant un vieux journaliste, je suis plus tout jeune, et même si j'ai commencé ce métier très, très jeune, très tôt, je reçois assez souvent aujourd'hui, comme je fais partie du jury du prix Albert Londres, le grand prix de journalisme,
Vous avez vous-même reçu.
Ce prix que j'ai obtenu en 1972, c'est presque au Moyen-Âge, quoi, si j'ose dire, pour la couverture de la guerre du Vietnam. Maintenant, je reçois souvent des jeunes journalistes, et presque toujours, ils me posent cette même question. Très sincère, je veux dire, ils me disent, mais monsieur Guilbeault, comment se fait-il que vous qui avez traversé pendant 25 ans des tueries, des catastrophes, des guerres civiles, des choses épouvantables, vous qui avez vu mourir et s'entretuer des gens pendant un quart de siècle, comment se fait-il que vous soyez, malgré cela, que vous soyez optimiste? Et chaque fois, je leur fais la même réponse. Je leur dis, mais écoutez, ça n'est pas malgré cela. C'est grâce à cela. Alors évidemment, ça les étonne. Ils me disent, comment c'est possible? Je lui dis, c'est très simple. C'est que pendant ces 25 années-là, dans toutes les situations que j'ai vécues, y compris les plus épouvantables, je peux leur parler, de la guerre civile au Liban, qui a été d'une sauvagerie insensée, je peux leur parler des différentes famines éthiopiennes où j'ai vu des gens mourir, des parents se laisser mourir pour donner la dernière nourriture à leurs enfants, j'ai vécu des situations épouvantables en Asie, un peu partout, et comment vous dire, chaque fois, je crois qu'il n'y a pas une seule exception. Chaque fois, dans ces pires situations, j'ai trouvé des gens qui ne succombaient pas au pessimisme et qui trouvaient en eux l'énergie, la force de garder l'espérance et de se battre et de se relever, etc., de rester debout. Alors, vous savez, quand vous vivez ça pendant 25 ans, ça finit par vous entrer dans la tête, si j'ose dire, et chaque fois que je rentrais en France, que je voyais mes compatriotes Mossad, Rouspéter, Grognon, j'avais le sentiment que moi, je pouvais pas devenir comme ça. C'était pas possible, parce que si je devenais grognon dans un pays où certes, il y a des problèmes, évidemment, il y en a beaucoup même, mais enfin, quand vous êtes dans l'avion et que vous approchez de l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, vous voyez pas des villages qui brûlent parce qu'ils ont été bombardés, vous voyez pas des cratères de bombes de B-52. Quand vous arrivez à Paris, vous n'avez pas le réflexe de regarder à droite ou à gauche s'il y a une mitrailleuse embusquée pour vous tirer dessus. Autrement dit, chaque fois que je retrouve mes compatriotes grognons, je me dis, je ne peux pas être comme ça. Si j'étais comme ça, j'aurais l'impression de trahir tous ces gens que j'ai laissés loin, là-bas, dans leurs problèmes, et qui m'ont donné, pendant un quart de siècle, une leçon d'espérance. Donc, quand je dis à ces jeunes journalistes, ça n'est pas malgré ce que j'ai vécu, c'est grâce à ce que j'ai vécu, je ne fais que dire l'exacte vérité. Voilà.
Très bien, très bien. C'est déjà, ça nous met en appétit pour en lire davantage. Mais je sais aussi que votre espérance, dans le fond, c'est pas une espérance là, qui tombe sur notre situation actuelle. Vous avez beaucoup travaillé l'analyse de notre désarroi contemporain.
Alors, en effet, comment vous dire, ce livre, il est petit, il fait que 200 pages, mais il est adossé, si j'ose dire, sur 8 gros bouquins qui, eux, en font au total 4000 pages, quoi. Donc c'est vrai que ce livre, c'est un petit peu, vous savez, quand on fait de l'alcool, il reste le meilleur, quoi. Si je me suis permis d'être court, d'être simple, parce que je m'adosse en effet à un long travail qui a duré 17 ans. Et quand je parle de l'espérance ou de l'optimisme, j'insiste bien et je voudrais vraiment le redire, je ne suis pas un optimiste au sens de la niaiserie. C'est-à-dire que il y a une façon d'être optimiste qui serait un peu niaise, vous savez, un peu sossote, quoi. C'est le conte de Voltaire, vous savez, Candide, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout va bien, etc. Et Voltaire, d'ailleurs, on l'oublie trop souvent, avait sous-titré son conte. Et vous savez quel était le sous-titre que Voltaire avait choisi pour s'en moquer. Le sous-titre de Candide, ça s'appelle l'optimisme. C'est pour se moquer de cet optimisme-là. Donc je ne suis pas du tout le ravi de la crèche. Quand je parle d'optimisme, c'est que je veux d'abord prendre en compte, y compris en Europe, les difficultés que nous affrontons. Je vois bien autour de moi, même dans notre pays, la France, qui est un des pays riches, un des pays prospères, je vois bien autour de moi les raisons désespérées, la peur des gens, la précarité des gens.
Voilà, c'est ça qui serait intéressant de connaître aussi, parce que vous avez fait une analyse des raisons de la désespérance aujourd'hui. Pourriez-vous nous résumer ça en quelques propos?
Il y a d'abord des raisons objectives, vous savez, qui sont liées à l'actualité, comment vous dire. C'est-à-dire que nous avons en France, depuis peu, nous en sommes, si on compte bien, si on ajoute tous les chômeurs, y compris les chômeurs à temps partiel, nous en sommes à 5 millions de chômeurs. Et si vous ajoutez les familles, ça fait 10 millions de Français, un sixième de la population qui est sur le bord du chemin. Et ça, c'est à peu près la même chose dans les autres pays européens. C'est plus grave encore en Espagne, c'est plus grave encore en Italie. Et quand vous vous souvenez... J'ai la chance d'avoir... J'étais déjà journaliste, figurez-vous, en 1970, quand Georges Pompidou a été président de la République française pour remplacer le général de Gaulle. Vous en souvenez sans doute. Et je me souviens d'un discours de Georges Pompidou au moment où il était devenu président de la République. À l'époque, il y avait 350 000 chômeurs en France. Et Georges Pompidou avait dit « Si jamais un jour nous atteignons le chiffre de 500 000 chômeurs, ça sera la révolution en France ». Nous en sommes à 5 millions, vous comprenez, je veux dire, nous en sommes à 10 fois plus. Et tous les pays d'Europe, le taux moyen de chômage en Europe a dépassé les 11%. Et nous savons qu'il va encore s'aggraver en 2013. Il est fort probable qu'à la fin de l'année, nous en serons à 13, voire 14% de chômage. Donc là, il serait irresponsable de ma part de ne pas prendre en compte cette détresse qui est autour de moi. Il faut prendre au sérieux. J'ajoute que nous vivons des transformations tellement brutales, celles auxquelles j'ai consacré tous ces livres. Nous vivons des mutations économiques, technologiques, spirituelles, incroyables, qui font naître ce que j'avais appelé, j'avais écrit un long article il y a deux ou trois ans, dans la revue des Jésuites, Études, j'avais écrit un long article qui s'appelait « La grande inquiétude ». Parce que je comprends très bien qu'autour de moi, mes compatriotes, parce que je l'éprouve moi-même, ils ont le sentiment qu'un vieux monde est en train de s'effondrer, le monde dans lequel ils sont nés. Donc il y a, comment vous dire, il y a des raisons. Je respecte les raisons que trouvent les gens pour être saisis par l'inquiétude. Simplement, ce que je leur dis, ce que je pense, très simplement, c'est quelque chose d'enfantin à dire même, c'est justement quand il y a des problèmes qu'il faut s'accrocher à l'espérance. Quand tout va bien, c'est pas la peine d'espérer. Quand tout va bien, tout va bien. Et puis on est là comme ça, on fait la planche et on se laisse porter par le courant. C'est quand tout va mal que l'espérance est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est une raison toute simple. Si vous cédez au pessimisme, si vous devenez grognon, si vous devenez découragé, alors vous risquez de favoriser les catastrophes que vous redoutez. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle le caractère auto-réalisateur du pessimisme. C'est facile à comprendre. Il y a 3 ans ou 4 ans, quand il y a eu la crise des banques chez nous, là, en septembre 2008, on a cru, vous savez, pendant une semaine, que les banques françaises pouvaient faire faillite, pouvaient disparaître. Heureusement, à ce moment-là, les Français ont été disciplinés. Ils n'ont pas succombé au pessimisme. Parce que s'ils avaient succombé au pessimisme, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ben, ils se seraient précipités chacun à leur banque pour retirer leurs économies. Alors, il y en a certains qui n'en ont pas beaucoup, mais on a tous un petit magot à la banque, même tout petit. Si on avait fait ça, les banques auraient fait faillite. C'est-à-dire que notre pessimisme aurait provoqué la catastrophe que nous redoutions. Alors, c'est précisément pour ça que je dis que quand tout va mal, ce dont il faut se méfier, c'est le pessimisme et le cynisme. Parce que ces deux choses, c'est les ingrédients du malheur, comme vous dites. Et si vous sombrez dans le cynisme, je ne crois plus à rien, c'est plus la peine, la démocratie, ça va mal, etc. Bon, et si vous êtes pessimiste, c'est-à-dire si vous pensez que bon, c'est pas la peine de sortir de chez soi, les carottes sont cuites, comme on dit dans le langage populaire chez nous, eh ben vous risquez en effet d'aggraver les choses. C'est dans ces moments-là qu'il faut être debout. Et c'est comme ça, pour ce qui me concerne, que j'interprète ce que j'appelle l'espérance.
Si j'ai bien compris à la lecture de votre livre, c'est ça, c'est une espérance lucide, donc une espérance qui vraiment s'incarne là, dans une analyse de la situation. Jean-Claude Guilbeault, dans vos grands livres, si on peut comme les résumer un petit peu, vous avez identifié...
Je les résume dans ce petit. Vous avez
c'est
vu
vrai,
qu'il y a,
oui.
Il y a un chapitre où je fais une sorte de condensé de tout mon travail depuis 17 ans.
En effet.
De la manière la plus vulgarisée et la plus claire possible.
Et c'est là-dedans que vous présentez les 5 grandes mutations que vous identifiez, que, par lesquelles nous passons encore, dans le fond. Ces mutations-là qui ne sont pas uniquement des réalités négatives, mais dans lesquelles il y a aussi des possibilités. Sans doute, est-ce là que vous prenez appui pour justement dégager votre optimisme et votre espérance?
Absolument, et je commence par dire une chose simple. Il y a quelque chose que je déteste dans le discours politico-médiatique chez nous, là-bas, c'est que... Au moins 2000 fois par jour, si on comptait bien, on emploie le même mot dans les journaux, à la radio, à la télévision, les hommes politiques. Et je trouve que ce mot, il est mensonger. C'est le mot crise. J'imagine que chez vous aussi, on l'emploie souvent, le mot crise. On l'emploie à toutes les sauces chez nous. Et je ne dis pas que les gens qui l'emploient veulent mentir volontairement, veulent nous tromper. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que le mot lui-même, il nous induit en erreur. Pourquoi ? Parce que si vous parlez de crise, crise économique, crise bancaire, crise de la croissance, crise, vous laissez entendre qu'une fois la crise terminée, la situation redeviendra ce qu'elle était avant. Une fois la crise terminée, on va retrouver la croissance à 4 ou 5% des années 70 ou des années 80. Autrement dit, quand vous employez le mot crise, vous laissez entendre que ce que nous vivons, c'est une interruption provisoire qui va un jour s'arrêter. Et nos hommes politiques, d'ailleurs, de droite ou de gauche, nous disent « nous allons trouver le chemin de la sortie de crise », etc. C'est absurde de dire ça. Parce que on ne peut pas comparer ce que nous vivons aujourd'hui au fait que, par exemple, quand vous avez une crise de foi, vous dites « une fois que ma crise de foi sera finie, je pourrai manger normalement, je redeviendrai ce que j'étais avant ». C'est vrai que c'est pas une crise que nous vivons, c'est une mutation. Nous changeons de monde. Et j'ai en effet pris 17 années pour essayer de décrire les 5 mutations que nous vivions en même temps. Et parler de mutation, c'est beaucoup moins démoralisant que de parler de crise. Pourquoi ? Parce que quand j'entends nos hommes politiques qui parlent de crise, je me dis, comme ce qu'ils annoncent, le fait qu'on va revenir à la situation d'avant ne se produira pas, ils préparent déjà le découragement et le pessimisme des gens futurs. Les gens, dans deux ou trois ans, vont bien se rendre compte que la croissance ne revient pas, et que c'est pas la peine de rêver aux 30 glorieuses, c'est fini. C'est une période qui est finie. C'est pas la peine de se bercer d'illusions en disant « l'Occident va redevenir le maître du monde, ça a duré 4 siècles, c'est fini ». Tandis que si vous parlez de mutation, en effet, ce que j'essaie de faire, en décrivant ces 5 mutations, c'est facile d'expliquer que chacune d'entre elles, elle est porteuse de menaces, en effet, graves, mais elle est porteuse de promesses. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas que du noir, toutes les mutations, y compris celles qui nous font peur. Et que du coup, c'est plus stimulant de se dire « affrontons les mutations et faisons en sorte que les promesses l'emportent sur les menaces ». C'est-à-dire ça nous renvoie à notre devoir de citoyen. Donc voilà pourquoi je préfère parler systématiquement du mot « mutation » plutôt que du mot « crise ». Alors, je sais pas si on a le temps, je peux vous énumérer ces 5.
Certainement, moi,
je
pense qu'en quelques mots, là, ce serait intéressant de connaître vos 5
mutations.
Vous savez,
d'ailleurs, c'est pas très sorcier. Chaque, j'imagine que chaque auditeur qui nous écoute les connaît, toutes les 5. Simplement, on prend pas toujours la peine de les mettre en perspective. Parce que on les mélange un petit peu. Moi, j'en ai isolé 5. On pourrait d'ailleurs en ajouter peut-être 6 ou 7, j'en sais rien. Mais j'ai travaillé sur 5 mutations. Que je peux compter sur mes doigts. La première, facile à comprendre, c'est la mutation géopolitique. Si vous regardez une carte du monde, le monde a changé. Bon, autrefois, il y avait l'Occident, l'Europe et les Amériques qui étaient au centre, qui incarnaient, qui représentaient la modernité, puis vous aviez la périphérie qui incarnait la tradition, etc. Nous étions les patrons du monde. C'est fini. Vous avez des grandes puissances, des grandes cultures qui émergent, après avoir sommeillé pendant des siècles, l'Inde, la Chine, etc., en Amérique latine, le Brésil, je suis sûr qu'en Afrique, un pays comme l'Éthiopie, que je connais bien, va devenir un jour une grande puissance à la dimension de l'Afrique. Ça veut dire que la carte du monde a changé. C'est pas forcément une catastrophe, mais c'est une mutation gigantesque. Le monde ne redeviendra plus ce qu'il était dans les années 70. Première mutation. Deuxième mutation, on ne parle que de ça, la mondialisation. Le fait que l'économie de marché, dont nous savons qu'elle est capable de fabriquer de la richesse, beaucoup mieux que l'économie à la soviétique des pays de l'Est, l'économie de marché, nous avions appris à la domestiquer, comme on le fait avec un cheval, à la débourrer, si vous voulez, parce qu'elle était enfermée dans les frontières d'un État-nation, d'une démocratie. Donc on pouvait voter des lois qui s'appliquaient dans un cadre donné, des lois sociales, empêcher le travail des enfants dans les mines, etc. Et aujourd'hui, la mondialisation, c'est quoi ? L'économie de marché, si on la compare à un cheval, il a sauté par-dessus la barrière et il cavale à travers le monde librement. C'est-à-dire que nous n'avons plus de prise sur lui. Nos gouvernements démocratiques sont un peu comme des cavaliers qui ont été jetés, pardonnez-moi, le cul dans la sûre, par terre, le cul sur l'herbe, et qui essaient de rattraper leur cheval pour lui passer le licol. Il va falloir... C'est ça la mondialisation. Ça change beaucoup de choses et c'est une mutation. On ne reviendra jamais à ce qu'étaient autrefois les économies nationales. Il va falloir trouver un autre système. C'est beaucoup déjà ces deux mutations. Troisième mutation, la mutation informatique. Comme j'ai consacré un livre entier là-dessus, je vais pas m'étendre, mais nous sommes entrés dans un monde qui est de plus en plus dominé par la réalité virtuelle. Il y a en ce moment dans le monde autant de téléphones portables que d'habitants sur la Terre. Même en comptant les nourrissons, on approche les 7 milliards de téléphones portables en service, alors que nous sommes 7 milliards 150 millions d'habitants. Ça veut dire que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire que tous les habitants de la Terre sont interconnectés. Et ça veut dire que la véritable réalité, c'est que nous pensions qu'il y avait 5 continents sur la Terre. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas 5. On vous a appris ça à l'école qu'il y en avait 5. Non, il y en a 6. Il y a un 6e continent, c'est Internet, c'est le web, le net. C'est un continent incroyable parce qu'il est partout et nulle part. Il est vaporeux, il est virtuel, il grandit sans cesse. Et toutes les activités humaines vont petit à petit s'installer sur ce 6e continent. Donc nous ne savons plus comment gérer notre nouveau rapport au réel. C'est à la fois formidablement stimulant. Vous vous rendez compte de ce que on est en train de vivre, quelque chose d'incroyable. Nous avons de la chance, nous, les vieux de mon âge, si je veux dire, parce que on aura eu un pied dans chaque monde. Donc on aura connu les deux. C'est assez formidable, même si c'est effrayant, à bien des égards. Bon, très bien. Quatrième mutation. Déjà, les trois premières, ça suffit à vous montrer que c'est véritablement la fin. Quatrième mutation, la mutation génétique. La révolution biogénétique, le fait qu'aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes peuvent intervenir sur les mécanismes de la vie. De la vie végétale, de la vie de la procréation humaine, etc. Tout d'un coup, nous avons mis, c'est un généticien new-yorkais qui disait cette formule, nous avons mis la main sur l'arbre de la connaissance. Pour de bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, ce généticien américain ajoutait avec un humour new-yorkais, il ajoutait, le problème, c'est pas tellement qu'on a mis la main sur l'arbre de la connaissance, c'est qu'on l'a déjà vendu à Wall Street. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire déjà est largement gouverné par l'argent. Et puis la cinquième mutation, c'est la mutation, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est la mutation écologique. Nous avons pris conscience tout d'un coup que la Terre est fragile et que nous pouvons la détruire. Si nous continuons nos entreprises prométhéennes comme nous le faisons depuis des siècles, il faudrait avoir non pas une Terre, mais 3 ou 4. Manque de peau, on n'en a qu'une. Alors comment on va faire ? Il va bien falloir... Quand je dis qu'une autre vie est possible, j'aurais pu titrer « Une autre vie est nécessaire ». Nous ne pourrons plus vivre... nos enfants l'ont compris, les jeunes l'ont bien compris. Nous ne pourrons plus vivre demain comme nous vivons aujourd'hui, dans cette espèce d'hyperconsommation, d'hypercroissance, de destruction de la nature. Vous comprenez ce que je veux bien ? Je sais bien que, par exemple, chez vous, comme chez nous, vous avez un grand débat, faut-il avoir des gaz de schiste, les exploiter ou pas ? C'est-à-dire, faut-il trouver un moyen de poursuivre la croissance ? Il y a des gens qui le croient, parce qu'en effet... quitte à détruire une bonne partie du pays, donc de la Terre. Ce type de problème se posera énormément. Donc, ça fait 5 mutations. Mais en même temps, on peut vous dire que chacune d'entre elles porte aussi beaucoup de promesses. La mondialisation qui est en train de flanquer nos économies par terre, elle a permis à des centaines de millions de personnes sur la Terre d'échapper à la misère. En Inde, en Chine, etc. On peut pas dire que c'est une catastrophe. La mutation génétique, qui nous fait si peur, avec le clonage, avec tout ce que vous voulez, elle va nous permettre de peut-être de vivre encore plus longtemps et en meilleure santé. Elle va pouvoir faire des progrès à la médecine considérables. Donc voilà, je pense que ces cinq mutations, elles ont ce point commun, elles portent la lumière et l'ombre en même temps.
Merci Jean-Claude de nous avoir dressé un beau panorama de ces grandes mutations. Nous allons maintenant prendre une pause pour bien assimiler toute cette belle analyse. Et pour la pause, vous avez choisi une de vos chansons préférées. Si on comprend bien, pourriez-vous nous
J'ai choisi une chanson admirable parce que, évidemment, c'est une chanson qui parle de notre mort à tous. Nous sommes tous destinés à disparaître. C'est une chanson de Serge Reggiani et qui s'appelle « Le temps qui reste ». Et c'est une chanson qui est habitée par la joie et par l'espérance. Comment faire pour aller jusqu'au bout dans la joie et dans l'espérance et en étant le plus vivant et le plus joyeux possible. C'est une chanson, chaque fois que je l'écoute, voilà, j'ai des petits frissons sur la peau, elle me bouleverse.
C'est avec grand intérêt qu'on va l'écouter nous aussi.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini. Je veux chanter. Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?
Vous écoutez Foi et Turbulence.
«
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Guilbeault et nous causons à partir de son dernier livre « Une autre vie est possible », le livre où il ramasse, dans le fond, cette grande conviction qui l'habite depuis très longtemps, la conviction en faveur de l'optimisme et de l'espérance. Jean-Claude, vous nous avez présenté les nouvelles possibilités qu'offraient les deux premières mutations que vous avez analysées dans vos livres. Et je trouve ça tellement intéressant que j'aimerais vous entendre sur les nouvelles possibilités qu'offrent aussi les trois autres mutations par lesquelles nous passons actuellement.
J'ai en effet insisté sur le fait que les cinq mutations que vous m'avez demandé de résumer, qui sont d'ailleurs résumées dans ce petit livre, elles sont porteuses, elles ont un point commun. C'est qu'elles sont porteuses, toutes les cinq, de menaces et de promesses. Et que trop souvent, les journalistes, notamment, dont je suis, qui sont plutôt pessimistes de nature et qui nous abreuvent de mauvaises nouvelles, les journalistes insistent presque toujours sur les menaces en oubliant de parler des promesses. Et que ça vaut la peine. Alors, je vous donne un exemple. J'ai parlé en effet de la mondialisation, qui avait... des promesses, même si elle était en train de détruire nos sociétés. C'est grâce à elle que des centaines de millions de personnes sont sorties de la misère et de la faim. Mais je peux faire la même remarque sur... Regardez, nous avons évoqué la mutation numérique. Le fait que nous sommes désormais confrontés à un sixième continent virtuel, Internet, vers lequel se déplacent toutes les activités humaines. Il y a quelque chose d'effrayant. Évidemment, dans cela, c'est que nous perdons le contact avec le réel. Il y a cette espèce de... nous habituons à l'immatériel. Regardez, quand nos enfants sont tout contents d'avoir 500 amis sur Facebook, c'est très bien, mais il vaut peut-être mieux avoir que 3 amis, mais en chair et en os, avec qui on prend un café le matin, plutôt que des amis virtuels que peut-être qu'on ne rencontrera jamais. Quand nous sommes effrayés parce que les marchés financiers dictent leurs lois, aux hommes politiques et aux démocraties, quelles qu'elles soient, c'est que les marchés financiers, eux, ils sont dans le sixième continent. Ils n'ont plus les pieds dans la gadoue, vous comprenez, je veux dire. Et du coup, comme ils sont dans le virtuel, ils peuvent dicter leurs lois. Il y a quelque chose d'effrayant. Mais en même temps, n'oublions pas que sur le sixième continent, il se passe quelque chose, mais qui aurait de quoi nous faire rêver. Et qui a de quoi nous faire rêver. On devrait y penser tous les matins en se réveillant. C'est le fait que désormais... Au bout de notre doigt, sur le clic de notre souris d'ordinateur, il y a toute la connaissance du monde qui est disponible. Tout. Vous cliquez sur l'ordinateur et vous allez sur Internet et vous pouvez trouver, je sais pas, les œuvres complètes d'Aristote dans n'importe quelle langue, n'importe quel film du monde. C'est-à-dire que nous avons tout d'un coup, les hommes ont accès directement, de tous les points du globe, à tout le savoir humain. Si vous trouvez que c'est pas extraordinaire, ça, d'abord, premièrement. Deuxièmement, plutôt que de vous donner des idées abstraites, je vais vous parler de quelque chose que j'ai eu la chance de vivre comme éditeur. Une sorte de miracle médical qui est lié, enfin de miracle humain, qui est lié à Internet et numérique. J'ai été l'éditeur et je suis toujours l'ami et je vais redevenir l'éditeur d'un garçon qui s'appelle Alexandre Jolien, qui a maintenant 35 ans, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années. Et voilà son histoire. Alexandre Jolien, j'ai oublié le nom exact de cette maladie. Il est né, il a été étranglé par le cordon ombilical dans le ventre de sa mère, vous savez. Et donc, il est né gravement handicapé. Cette maladie porte un nom, elle est irréversible, etc. Donc, quand il est né, on l'a mis dans une institution spécialisée, à Lausanne, en Suisse. Et il était destiné à avoir une vie de légume, quoi. De voir, d'être simplement comme un, il le dit lui-même maintenant, j'étais destiné à devenir un légume. Et dans cette institution, il a trouvé un éducateur qui a eu une idée de génie. Parce que comme il ne pouvait pas se servir de ses, il était handicapé aussi de ses mouvements, etc. Cet éducateur a eu l'idée de génie, il l'a initié à l'informatique. Et grâce à l'ordinateur, Alexandre Jolien a pu faire des études, a pu faire une agrégation de philo et a pu devenir un véritable philosophe. Et il a écrit plusieurs livres, il est maintenant devenu une sorte de star internationale et il est devenu la coqueluche de tous les mouvements qui s'occupent des handicapés, etc. Il a, si j'ose dire, émergé à la vie. En outre, je dis pas ça pour faire plaisir à notre paroisse, si j'ose dire, mais il est devenu chrétien et il écrit des livres magnifiques qui concernent aussi le christianisme. Et voilà Alexandre Jolien. Et ce qu'il a vécu, il le doit à la révolution numérique. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, expliquer que c'est seulement une catastrophe, c'est simplement être étourdi, quoi. De la même façon, quand vous pensez à la révolution génétique qui nous fait si peur, excusez-moi, mais j'ai fait beaucoup de pages dans un livre qui s'appelle La vie vivante sur ce qu'elle permet désormais. Elle permet des choses inimaginables, incroyables. Elle permet par exemple à des gens qui ont perdu leurs deux bras, imaginez, dans un accident, de leur greffer des bras artificiels qui imitent la chair humaine et les bras qui commandent désormais avec leur cerveau. Elle permet d'améliorer la vision de quelqu'un qui a perdu la vue, quelqu'un qui est non-voyant, en lui greffant des caméras minuscules qui sont reliées, connectées au centre nerveux, au centre du cerveau, de la vue, etc. Autrement dit, elle ouvre des possibilités d'échapper à la malédiction physique. Personne n'arrivera à me convaincre que c'est une catastrophe. Et quant à la révolution qui nous fait, celle qui me fait le plus peur, celle pour laquelle j'ai le plus de mal à être spontanément optimiste, c'est la révolution écologique. C'est le fait que tout d'un coup, là, nous sentons bien que, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour éviter le dérèglement climatique, pour éviter que les océans se dépeuplent, pour éviter les atteintes à la biodiversité? Comment on va faire pour éviter que nos pays deviennent des dépotoirs, des terribles? Je veux pas être méchant, mais ce qui se passe en Alberta, j'ai été voir des films, etc. On n'a pas envie que chez soi, ça devienne comme ça. Comment on va faire? Comment on va faire pour partager le pétrole avec les Chinois quand ils auront autant de voitures que nous? Il n'y en aura pas assez de pétrole. Autrement dit, cette révolution écologique, c'est a priori la plus inquiétante. Mais dans le même temps, si elle nous oblige à vivre autrement, à retrouver un peu de calme, un peu de frugalité, un peu de lenteur, à être moins obsédé par la consommation, le consumérisme. Et vous savez, il y a beaucoup de mouvements qui naissent aujourd'hui, qui se battent sur ces fronts-là. Il y a un mouvement qui est né en Italie, qui s'est répandu à travers le monde comme une traînée de poudre, qui s'appelle le slow movement, qui dit ralentissons, arrêtons de courir, on va pas gâcher notre vie. Donc même cette révolution qui nous fait peur, en nous obligeant à vivre autrement, je vous assure que moi j'interprète ça comme une bonne nouvelle.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez pointé des faits là qui étaient dans votre perspective. Et dans le livre, j'ai cru comprendre aussi que, en plus de ça, quand vous regardez, socialement parlant, surtout au plan de la société civile, là aussi, vous identifiez des nouvelles prises de conscience, vous identifiez des initiatives qui viennent fonder encore un regard optimiste,
absolument,
un regard plein d'espérance.
Je suis, comme je circule beaucoup en France, quand je fais un livre, en général, mon éditeur me fait vadrouiller un peu dans toute la France, comme un chanteur de rock'n'roll qui fait sa tournée, je veux dire. Donc, je passe mon temps à aller un peu dans toutes les régions de France. Je suis chaque fois impressionné par la vitalité de la société civile, quoi. C'est-à-dire que les sociétés, dans leur profondeur, elles ressemblent pas à ce qu'on voit à la télévision. C'est-à-dire aux gens mornes, etc. Et je suis frappé notamment par la vitalité du monde associatif. Toutes sortes de réseaux associatifs, des réseaux de solidarité, des réseaux d'entraide, comme, je sais pas, les Restos du Cœur, ATD Quart-Monde, mais aussi des réseaux culturels, d'échanges d'idées, etc. Il y a une vitalité de la société que je trouve formidable. Et quand je vous disais au début de notre entretien que Georges Pompidou avait dit en 70, s'il y a un jour 500 000 chômeurs, ça sera la révolution, et que j'ajoutais que nous en étions à 5 millions, et que c'était pas la révolution. Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à qui, avec 5 millions de chômeurs, avec des immenses précarités qui se répandent, etc., grâce à qui la France n'est pas en révolution, ou ne s'est pas détruite? C'est grâce à ces centaines de milliers de bénévoles, dans le monde associatif, dont les médias ne parlent jamais, et qui, jour après jour, s'occupent à recoudre le tissu social qui se déchire. Vous savez, comme les marins, autrefois, sur les bateaux, ils ravaudaient les filets. Et je vois autour de moi, moi qui habite en province, je vois que sans ces gens-là, il y a des gens qui ne mangeraient pas à leur faim, il y a des gens qui seraient dans la détresse, etc. Donc il y a une vitalité de la société civile qui, pour l'instant, je dis dans mon livre, c'est elle qui met l'espérance à l'abri. Elle met l'espérance à l'abri du découragement politique. Parce que quand on regarde les hommes politiques, quand on regarde les partis politiques, quand on regarde les grandes institutions qui sont toutes en crise, on serait plutôt tenté de désespérer. Puis quand on regarde la société réelle, tout d'un coup, on trouve des initiatives, des inventions, une créativité formidable. Et je trouve ça, en effet, une très forte et très concrète raison d'espérer.
En effet, c'est un bel exemple qui est intéressant aussi. Jean-Claude Guilbeault, Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des faits de l'analyse de la société qui nous permettent donc d'entrevoir la possibilité d'être optimiste, la possibilité d'avoir une espérance pour aujourd'hui. Je suis persuadé que vous avez déjà beaucoup réfléchi sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'être optimiste aujourd'hui. Est-ce que ça distingue aussi de l'espérance? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi pour nous aider à approfondir ces deux éléments-là?
Oui, alors évidemment, on pourrait parler énormément de la différence entre l'espérance et l'optimisme. On pourrait d'ailleurs expliquer, ce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais que j'insiste beaucoup, ça me paraît important, que le concept d'espérance, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il est exclusivement religieux. Que quand on parle de l'espérance, on parle forcément d'espérance chrétienne ou religieuse. Ça n'est pas vrai. Il y a quantité de gens qui se sont intéressés à l'espérance qui n'étaient pas religieux. Le grand livre qui a été publié et traduit en France dans les années 50, qui s'appelle « Le principe espérance », il est écrit par Ernst Bloch, qui était un marxiste repenti, mais qui était un athée. Vous comprenez, je veux dire. Moi, j'ai un ami que j'admire beaucoup et qui est un vieux monsieur, mais dont j'ai été l'éditeur, Edgar Morin. Edgar Morin ne cesse de répéter, et lui, il n'est pas du tout ni chrétien, il est d'origine juive, mais athée. Mais il ne cesse de répéter, Jean-Claude, il nous faut des redresseurs d'espérance. Donc ce mot, il n'est pas la propriété ni des chrétiens, ni des juifs, vous comprenez. Il faut bien comprendre que quand on parle d'espérance, on s'adresse à tout le monde. On n'est pas en train de parler simplement pour sa paroisse. Pour le reste, je donne un point de vue qui n'est que mon avis, mais la différence entre l'optimisme et l'espérance, au niveau comme ça de la société, je crois que l'optimisme, disons que c'est plutôt un état d'esprit, tandis que l'espérance, c'est une décision, c'est une volonté. Il y a quelque chose de volontaire dans l'espérance. Il y a quelque chose de c'est un engagement. Et d'ailleurs, il y a des textes, quelques textes que je cite dans mon livre que je trouve magnifiques. Un des écrivains, alors là c'est un écrivain chrétien, mais qui a le mieux parlé d'espérance, c'est Georges Bernanos, qui parle qui parle du péché contre l'espérance, c'est-à-dire cette espèce d'affaissement de notre énergie, qui fait que tout d'un coup, on n'a plus l'énergie d'adhérer et de choisir l'espérance. Il y a une part de décision dans l'espérance, d'engagement. Et je trouve que c'est très important. Ça permet de ne pas accepter que les gens disent « Oh ben voilà, j'ai perdu l'espérance parce que il m'est arrivé des choses, puis j'ai plus envie. » Non, on a peut-être perdu l'énergie nécessaire pour être debout. Donc c'est la première réponse que je ferai. La deuxième, c'est que je m'aperçois qu'en vous parlant, je n'ai pas rendu l'hommage qu'il mérite à des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai souvent eu la chance d'être leur éditeur, et qui ont été pour moi des professeurs d'espérance, des exemples d'espérance. Et je ne vous citerai qu'une personne, je pourrais en citer une bonne douzaine, je ne vous citerai qu'une personne, c'est une femme que j'ai eu la chance de connaître bien, dont j'ai eu la chance d'être l'éditeur, c'est moi qui lui ai fait écrire son livre, je vous dirai son nom après. Et j'ai eu même l'incroyable chance qu'elle choisisse de venir chez moi à la campagne en Charente pour écrire son livre. Et cette femme, c'est Lucie Aubrac. Vous savez sans doute qui est Lucie Aubrac, héroïne de la Résistance, qui, en 1940, elle venait juste de se marier avec son mari Raymond Aubrac quand la guerre a commencé. Et elle est entrée dans la Résistance immédiatement, tout de suite. Alors que vous savez, en 40, il y avait beaucoup de raisons de ne pas y croire vraiment, de désespérer. Et ça a été une femme admirable, parce que non seulement elle s'est engagée concrètement dans la Résistance, au point de, il n'y a pas beaucoup d'exemples, elle a réussi à libérer son mari prisonnier de la Gestapo, elle l'a libéré des griffes des Allemands à Lyon, mitraillette à la main, en attaquant le convoi avec des corps francs de la Résistance. Et cette dame, Lucie Aubrac, qui juste après la guerre était devenue une héroïne célèbre dans le monde entier, elle avait aux États-Unis des bandes dessinées qui racontaient son histoire. Après la libération, elle n'a jamais accepté le moindre poste honorifique, le moindre. Elle est restée tout le temps modeste, toujours modeste, et elle a passé toute sa vie pratiquement à essayer d'expliquer dans les écoles aux jeunes et tout ce que c'était que l'esprit de résistance et ce que c'était que l'espérance. Alors quand on a eu la chance comme ça de connaître et d'avoir près de soi quelqu'un comme Lucie Aubrac, c'est une leçon qu'on n'oublie pas. Elle est morte il y a quelques années. Nous avons été, il y a eu une grande cérémonie dans la cour des Invalides, un hommage qui lui a été rendu en présence du gouvernement. Et nous étions frissonnants de tendresse rétrospective avec ma femme pour Lucie Aubrac. Alors vous savez, les gens comme ça qu'on rencontre, qui sont un peu des phares, qui sont un peu des modèles, ça contribue beaucoup à vous donner l'espérance. Et dans le cas de Lucie Aubrac, c'est très marqué, c'est très fort et facile à comprendre que pour elle, l'espérance c'était d'abord un engagement. C'était d'abord un choix. C'était pas seulement un état d'esprit. C'était être capable de résister à ce pessimisme qui tout d'un coup peut vous habiter. En 1940, bon, la plupart des Français sont entrés dans la résistance, mais à partir de 42 ou 43. Elle, c'est dès le début, quoi. Je voulais marquer cela. Ne pas oublier de rendre hommage à travers une personne à tous les gens qui autour de moi m'ont habitué à l'espérance et m'ont mis ça en tête. Je pourrais dire aussi que j'ai eu la chance d'avoir un grand professeur de droit, que j'ai fait un doctorat de droit à Bordeaux, qui était en même temps un grand théologien protestant qui s'appelait Jacques Ellul. Et Jacques Ellul a écrit un livre qui m'a marqué profondément. J'ai lu tous ses livres, évidemment, mais il a écrit un livre dans les années, à la fin des années 60, qui s'appelait L'espérance oubliée et qui était un livre magnifique, magnifique.
Jean-Claude Guilbeault, vous nous avez présenté des belles figures, vous nous avez présenté des analyses fouillées, tout ça, mais tout ça est encore un peu loin de nous. Et en vous écoutant, évidemment, on est acquis à vos idées. Et là, on se demande, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, comment est-ce que je peux vraiment décider et me mettre en route dans cette voie-là d'espérance dont vous venez de parler, et puis pour justement continuer cette nouvelle perspective.
C'est la vraie question, et je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est une question qu'on me pose presque toujours quand je parle à des gens, notamment des jeunes, mais quand je parle de tout cela, c'est la question immanquablement on me pose, et donc c'est une question très pertinente, que je comprends tout à fait. Les gens me disent, mais monsieur Guilbeault, vous nous racontez, c'est très beau, etc., mais nous, face à ces grandes mutations, nous, simples citoyens, simples mères de famille, simples étudiants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans notre vie quotidienne face à ces grandes choses? Et à ces gens, je raconte une histoire magnifique que j'ai eu la chance de connaître à travers un grand sage de l'écologie en France, un type d'origine kabyle, qui s'appelle Pierre Rabhi et qui devient une figure un peu très populaire dans la jeunesse. C'est une fable brésilienne. Et je trouve que c'est la meilleure illustration de ce que peut être l'espérance individuelle pour chacun d'entre nous. Et c'est la fable dite du colibri. Qu'est-ce qu'elle raconte cette fable? Une chose très simple. Un jour, il y a un immense incendie dans la forêt amazonienne. Un gigantesque incendie. Alors les arbres flambent, il y a des flammes de 30 mètres de haut, c'est la catastrophe. Et tous les animaux de la forêt, de l'Amazonie évidemment, s'enfuient sur leurs petites pattes, à toutes pattes, pour échapper, pour ne pas être grillés, comme des hamburgers. Et parmi les animaux qui s'enfuient, il y a un tamanoir dans la version. Vous savez, un tamanoir, c'est une espèce de mammifère comme ça qui a un long museau et qui avec une langue très longue pour il mange les fourmis. C'est un fourmilier. Alors il y a le tamanoir qui court de manière un peu maladroite parce qu'il est pas bien, il est pas bien profilé pour la course. Donc il a un peu peur et à un moment donné il se retourne au milieu de cet incendie. Et il voit derrière lui un colibri, c'est-à-dire un petit oiseau-mouche qui fait 3 ou 4 centimètres de taille, et qui le petit colibri, lui, au lieu de s'enfuir, il va dans une mare, il prend une goutte d'eau avec son bec et il le jette dans l'incendie. Il retourne dans la mare, il prend une goutte d'eau, il la jette dans l'incendie. Il retourne dans la mare, il prend une goutte d'eau, il la jette dans l'incendie. Et le plus vite qu'il peut. Et le tamanoir se retourne et avec beaucoup de violence et beaucoup de méchanceté presque, parce qu'il dit au colibri, mais pauvre imbécile, tu crois pas que tu vas éteindre l'incendie comme ça? Et le petit colibri ne se démonte pas et il lui répond avec sa petite voix, je sais bien, mais je fais ma part. Et cette idée que faire sa part. Et faire sa part, ça peut être une part toute petite, mais faire sa part, c'est agir conformément à l'espérance là où on est, à sa place, dans son quartier, dans son métier, dans sa famille. C'est-à-dire que penser, c'est un grand slogan des écologistes, penser global mais agir local. C'est la même chose. Agir local, ça veut dire agir où on est. De mille façons, encourager telle initiative, s'engager, donner son avis, s'intéresser à ce qui se passe, être actif et être debout. Je vous assure que dans un pays, nous en France, on est un peu plus de 60 millions d'habitants, vous êtes un peu moins au Québec, mais il n'empêche que c'est la même chose. Dans nos pays, si chacun faisait sa part, j'aime mieux vous dire que les choses avanceraient beaucoup plus vite et qu'on sortirait beaucoup plus vite de la sinistrose. Donc, cette idée de faire sa part, je trouve que c'est une idée magnifique parce que c'est une définition d'espérance. Et puis, elle nous permet d'échapper à ces grands discours abstraits, vous savez, à ces grands rodomontades que nous font quelquefois les journalistes, les médias, etc. Non, c'est très concret, c'est très précis. Et je vois autour de moi, je vous parlais tout à l'heure de la vitalité de la société civile, ça nous ramène à cela. Je vois autour de moi en Charente beaucoup de gens anonymes qui, sans faire des grandes phrases, sans se prendre pour des héros, qui font leur part. Et je pense qu'en fait, ce sont les véritables héros des mutations que nous vivons.
Merci Jean-Claude Guilbeault. Vous nous avez esquissé votre dernier volume, Une autre vie est possible, mais surtout vous nous avez donné la possibilité d'entrer dans ce grand mouvement d'espérance. Et juste le fait de prendre conscience de ça et de réaliser qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence, c'est déjà une expérience très intéressante pour nous. Merci encore de votre passage parmi nous. Merci de relancer notre espérance.
Merci, Père de Berst, de votre accueil.
À la prochaine.
Je remercie infiniment Jean-Claude Guilbeault pour cette entrevue dans laquelle on voit bien qu'il est possible de conjuguer à la fois une analyse critique, un regard réaliste sur cette société complexe dans laquelle il n'est pas toujours aisé de s'orienter, de trouver ses repères, et donc de conjuguer ce réalisme avec une option résolument orientée vers l'espérance, vers un regard capable de percevoir ce qu'il y a de positif, où sont les promesses, et une option qui pousse à l'intervention, qui pousse à agir, qui pousse à se tenir debout. Jean-Claude Guilbeault, merci. Je remercie également mon collègue Bruno Demers d'avoir animé pour nous cette rencontre. Je mettrai sur le site Internet de l'Institut de Pastoral les titres des diverses publications de Jean-Claude Guilbeault. L'adresse du site est ipastorale.ca. Merci à Nathalie et à Hélène pour leur soutien technique, ainsi qu'à Louis Lesage qui coordonne l'ensemble de cette série « Foi et turbulence ». Surtout, merci à vous, madame, monsieur, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Mon nom est Francine Robert, je vous donne rendez-vous dans un mois. Bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie et à bientôt.